Etur Jesus Christus.
Les musulmans palestiniens célèbrent l'Aïd el-Fitr dans un contexte bien sombre marqué par la guerre dans la bande de Gaza. Cette fête qui marque la fin du ramadan leur rappelle combien ils manquent de tout et surtout de l'essentiel pour survivre après 6 mois de bombardements israéliens. L'opposition sud-coréenne va renforcer encore un peu plus sa majorité au Parlement à l'issue des élections législatives d'aujourd'hui. Un camouflet pour le président dont la marge de manœuvre va s'en trouver encore davantage réduite. Reportage à Séoul à la sortie des urnes. Le dérèglement climatique va coûter très cher aux économies les plus riches, plus qu'elles ne le pensent. C'est l'avertissement qu'a lancé aujourd'hui le chef de l'ONU Climat, alors que le G20 peine à se mettre d'accord pour financer la transition énergétique. Les terres de son peuple sont pillées et détruites par l'appât du gain. Le chef des Yanomami du Brésil est venu au Vatican rencontrer le pape pour lui demander son aide afin de chasser les entreprises et les pilleurs. Nous l'entendrons dans ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonsoir. Jour de fête bien triste donc pour les musulmans de la bande de Gaza, alors que l'on célèbre l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du ramadan. Israël ne cesse pas ses bombardements. Les dernières frappes ont ainsi visé le camp de réfugiés de Nusayrat, tuant 14 personnes dont des enfants. À Jérusalem, Valérie Ferron.
C'est dans une profonde tristesse que les Palestiniens célèbrent cet Aïd el-Fitr, le cœur tourné vers leurs compatriotes de la bande de Gaza, où des milliers de personnes ont effectué leurs prières dans les ruines des mosquées détruites, 229 totalement et 297 partiellement, selon les estimations palestiniennes disponibles. Cette fête est marquée pour eux par l'absence de maisons et de réunions familiales, l'absence des proches, des dizaines de milliers d'enfants et d'adultes ayant perdu tous les membres de leur famille sur plusieurs générations, tués par les bombardements israéliens ou les tirs des chars et des snipers, absence également des visages familiers comme ceux des voisins ou des amis en raison des déplacements forcés de plus d'un million de personnes. En Cisjordanie occupée, les Palestiniens restent soumis aux incursions militaires israéliennes et aux attaques des colons qui ont fait 4 blessés aujourd'hui dans un village près de Ramallah, à Jérusalem. Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et à Jérusalem, 60 000 musulmans, principalement des Palestiniens ou des citoyens d'Israël, ont pu prier sur l'esplanade des mosquées malgré un grand déploiement de soldats de forces spéciales israéliennes. On a appris il y a peu que le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui vit au Qatar, a reconnu que 3 de ses fils et 4 de ses petits-enfants ont été tués aujourd'hui dans une frappe israélienne à Gaza. C'est ce qu'il a confié il y a peu donc à la chaîne qatari Al Jazeera. Ce matin, le pape a une fois de plus tourné ses pensées vers la Palestine et Israël dans ses saluts aux fidèles et pèlerins réunis place Saint-Pierre pour l'audience générale. François a également évoqué l'Ukraine tourmentée, l'Ukraine qui a besoin maintenant de défense antiaérienne. C'est sur quoi a insisté le secrétaire général de l'OTAN lors d'une conférence de presse aujourd'hui. Présentation en France en Conseil des ministres ce matin du projet de loi sur la fin de vie. Le texte, s'il est adopté, ouvrira la porte au suicide assisté, même si le terme n'est pas utilisé. Pour le gouvernement français, il s'agit d'une réponse éthique aux besoins d'accompagnement des malades. Les évêques ont eux déjà exprimé leur opposition au projet. Pour mieux faire passer leur message, ils ont mis en place un porte-parole dédié à cette question, composé de 4 d'entre eux. Adoption, il y a quelques minutes à peine à Bruxelles, du pacte migratoire européen. Les eurodéputés ont approuvé le texte de cette vaste réforme, fruit d'un compromis obtenu après des années de difficiles négociations. En tout, 10 textes formant ce pacte ont été votés cet après-midi. Les résultats ne sont pas encore définitifs, mais les derniers sondages de sortie des urnes laissent entrevoir en Corée du Sud une large victoire de l'opposition législative. Un scrutin qui a pris des allures de référendum sur la personnalité du président Yoon Suk-yeol. Le chef de l'État et son parti pourraient bien essuyer là un camouflet. L'opposition, déjà majoritaire, devrait en effet gagner encore des sièges supplémentaires. À Séoul, Jean Labruyère.
Des intelligences artificielles qui mettent en scène des candidats en livreur à scooter se battant pour attraper un train en marche ou bien en pleine course de patins à roulettes. Comme d'habitude, les animations des chaînes de télévision sud-coréennes ont su rendre l'attente jusqu'au résultat définitif plus divertissante. Même si la victoire de l'opposition démocrate ne fait pas de doute, Choi Soon-sik, secrétaire général du parti.
Nous sommes très reconnaissants à la population d'avoir donné au parti démocrate une victoire écrasante lors du vote anticipé.
L'ambiance était différente du côté du parti présidentiel, Han Dong-un, leader des conservateurs.
Nous avons fait de notre mieux pour gouverner en respectant la volonté du peuple. Mais les sondages de sortie des urnes sont décevants. Toutefois, nous continuerons à nous tenir aux choix exprimés par les électeurs et à observer le décompte des voix.
Le faiseur de roi pourrait être l'opposant Cho Kuk, dont le parti espère obtenir une dizaine de sièges à l'Assemblée.
Vous, le peuple, êtes les véritables protagonistes de la victoire de ces élections générales, car vous ne pouvez plus assister à la régression de la dictature du procureur Yoon Suk-yeol.
Une déclaration quelque peu hâtive, car l'enjeu est de connaître l'ampleur de la victoire de l'opposition. Si elle obtient les deux tiers des sièges, elle sera en mesure de contraindre le président à l'immobilisme jusqu'à la fin de son mandat en 2027. Jean Labruyère, Séoul, pour Radio Vatican.
Les ingérences extérieures ne pourront pas entraver la réunification de Taïwan à la Chine, déclaration du président chinois aujourd'hui lors d'une rencontre avec l'ancien président taïwanais Ma Ying-jeou, qui effectue une tournée sur le continent depuis début avril pour, selon ses dires, apaiser les tensions entre Pékin et Taipei. Les économies du G20 vont être décimées par le dérèglement climatique. C'est la prédiction du chef de l'ONU Climat qui s'est exprimé aujourd'hui à Londres et qui veut mettre en garde les pays les plus riches de la planète. Début mars, les ministres des Finances des 20 premières économies du monde réunis à Sao Paulo n'avaient pas trouvé d'accord pour financer la transition énergétique et l'adaptation aux phénomènes extrêmes en raison de divisions géopolitiques liées notamment à la guerre en Ukraine et à Gaza. L'ONU presse donc pour un accord en prévision des réunions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international mi-avril. Les précisions de Jean-Benoît Harel.
Ni les guerres à Gaza et en Ukraine, ni l'inflation, ni les contraintes de la transition écologique ne doivent remettre en cause la solidarité financière internationale face au dérèglement climatique. Voilà en substance ce qu'a affirmé Simon Stiel, chef de l'ONU Climat, accusant les pays du G20 de reléguer la question du dérèglement climatique au second plan et de se rejeter la responsabilité entre eux. Alors que les 20 pays les plus riches de la planète représentent 80% des émissions de l'humanité, ils doivent être au cœur de la solution écologique mondiale, a ajouté le haut fonctionnaire onusien. Selon lui, les États se doivent de mobiliser une masse très importante de capitaux pour lutter contre le dérèglement climatique comme lors de la crise financière de 2008. Cette aide financière sera un préalable aux efforts en la matière des pays en développement, sans lesquels toutes les économies, y compris celles du G7, seront bientôt en proie à des difficultés graves et permanentes, a souligné le patron de l'ONU Climat. Il s'est également inquiété de la remise en cause des ambitions climatiques et a jugé les objectifs de réduction des gaz à effet de serre très insuffisants pour respecter la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 degré, comme prévu par l'accord de Paris.
Jean-Benoît Harel. Le Kremlin reconnaît une situation très très tendue dans plusieurs régions de l'Oural et de la Sibérie occidentale, en cause les plus graves inondations depuis des décennies qui touchent cette zone de la Russie, mais aussi le Kazakhstan. En tout, 100 000 habitants ont été évacués de part et d'autre de la frontière ces derniers jours et l'eau devrait continuer à monter. Retour au Vatican avec cette audience du pape François au chef et porte-parole du peuple Yanomami du Brésil, Davy Kopenawa. Ce matin, le Saint-Père s'est entretenu avec celui dont l'engagement en faveur de la protection de l'environnement et plus particulièrement de la forêt amazonienne est reconnu internationalement. Cette entrevue fut pour le membre de ce peuple premier l'occasion d'interpeller directement le pape pour lui demander son aide pour protéger son peuple menacé par la déforestation. Davy Kopenawa.
Le pape m'a très bien accueilli et j'ai également apprécié qu'il m'ouvre la porte pour entrer dans son lieu de travail et d'hébergement. C'était très important pour ce que je voulais. Je voulais le rencontrer, je voulais lui prendre la main comme s'il était un ami du peuple indigène, de mon peuple Yanomami Yakoana du Brésil. C'était formidable. Je suis venu à Rome pour parler au pape François de la situation de mon peuple. Je lui ai demandé d'expulser les mineurs illégaux des terres des Yanomami cette année. Les enfants Yanomami souffrent de malnutrition à cause de l'exploitation minière, à cause des autorités qui les ont laissés entrer et envahir nos terres.
Davy Kopenawa au micro de notre consoeur de la rédaction brésilienne Bianca Fracalvieri. Puis avant de se quitter, un mot sur la catéchèse du pape lors de l'audience générale ce matin, poursuivant son cycle sur les vices et les vertus. François a parlé de la force d'âme qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Pour plus de précisions, bien sûr, rendez-vous sur notre site internet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, très bonne soirée à toutes et à tous.